Écluse Saint-Félix. Ici, l'Erdre finit. Ici, le canal commence.
Nantes !
Pierrick ne sait plus où donner de la tête. Le chaland vient de larguer la remorque. Il glisse lentement vers cette ville étourdissante. Débarque et sillonne le canal en tous sens. Sur les berges, charrettes et voitures roulent en convoi serré et traversent des uniformes et des cavaliers. Droit devant, les drôles de bateaux lavoirs forment une allée vers les ponts de pierre. Ces péniches servent aux lavandières, depuis qu'elles n'ont plus accès aux rives. Elles sont apparues en 1840, au moment où Nantes a été aménagée pour le passage du canal. Auparavant, trois barrages, infranchissables pour les bateaux, retenaient les eaux de l'Erdre. Les marchandises venant de la Loire ou destinées à y être envoyées étaient donc déchargées de part et d'autre des chaussées. Pour assurer la continuité du trafic entre la mer, la Sèvre et le canal, on ouvrit donc une brèche dans ces retenues et l'on élargit le lit de l'Erdre en centre-ville. Le marais de Barbin, où travaillaient les tanneurs, est alors en partie comblé et l'île de Versailles créée. De nouvelles avenues et des quais sont construits de part et d'autre de la voie d'eau, de ses bassins et de ses affluents. Nantes a bien changé depuis cette époque où les caporniers sortaient des chantiers navals des bords de Loire. Bien des façades d'armateurs, alors au ras des quais, surplombent à présent des boulevards. Quant à la voie d'eau, que l'Aurore suit à l'air libre en 1895, elle passe à présent dans un tunnel. Au-dessus se tient le cours des 50 otages, dédié aux martyrs de la Seconde Guerre mondiale. Celle qui fut le premier port d'Europe pour le commerce avec les colonies demeure une porte sur l'Atlantique et l'un des sésames des canaux d'Armorique. À bord de l'Aurore, Pierrick apprécie l'élégance de la Venise de l'Ouest en passant l'écluse Saint-Félix, écluse numéro 1. Puis le chaland s'amarre le long de la Loire. Sur des kilomètres à la ronde, de grands vaisseaux s'alignent venus d'Inde ou d'Amérique et des marins déchargent caisses, malles et ballots. Le mousse est fasciné. Yann lui lance.
« Il te plaise, hein, ces grands voiliers ? Regarde ce trois-mâts barque. Il a peut-être même été construit ici ?»«
Oui, depuis que je suis tout petit, j'ai envie d'embarquer avec eux. »«
Ta mère m'a bien recommandé de ne pas te laisser filer pourtant. »«
On ira sur la Loire ?»«
Nous, non. Nous nous installerons à Sucé pour le chômage d'été. » Mais je peux sûrement t'arranger un embarquement avec des gars d'Angers. J'en connais beaucoup. Je peux essayer de te trouver une place. Ça te dit ?
Oui !
Quelques heures plus tard, Yann a convaincu Louis, le capitaine du Fille de Loire, de prendre Pierrick à son bord pour quelques allers-retours vers Angers. Le lendemain matin, le garçon, ravi, a transbordé son paquetage. Il aide à hisser la toile. Porté par la brise de mer, le chaland s'éloigne sur le fleuve. Le cœur bizarrement serré, il hurle.
À bientôt, Anne. Je vous retrouve dans un mois, à Sucé, pour repartir sur le halage.